Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est midi en temps universel, 13h à Paris.
Florent Guignard.
Bonjour et bienvenue dans RFI Midi, une heure d'information le week-end, l'actualité dans le monde dans la première demi-heure avant Afrique Midi, chronique, reportage, invité. Et on commence avec le journal. Au sommaire, l'Iran accusé d'avoir voulu faire assassiner Donald Trump. Téhéran dément. Les signaux GPS brouillés en Corée du Sud et c'est signé la Corée du Nord. La France, face à la multiplication des plans sociaux, des milliers d'emplois vont disparaître. C'est le ministre de l'Industrie qui le dit. On l'entendra dans ce journal avant d'aller plus loin, dans un quart d'heure, avec notre invité. Et puis le dispositif policier renforcé pour le prochain match de foot France-Israël. Ce sera jeudi à Paris, après les violences de ces derniers jours à Amsterdam.
RFI Midi.
À suivre encore le journal des sports avec du foot et du basket. Le 35e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Et puis l'avenir des transports aux États-Unis et du plan d'infrastructure voulu par Joe Biden après l'élection de Donald Trump. Mais on va d'abord commencer ce journal par de la littérature et de la politique en Inde, où depuis 1988, un livre était interdit. Les versets sataniques de Salman Rushdie, qui venait de faire l'objet d'une fatwa par l'Iran, le juge étant jugé blasphématoire pour le prophète de l'islam. En Inde, on avait donc suivi la décision de l'Iran par crainte des tensions religieuses dans un pays où la minorité musulmane compte 200 millions de personnes. Mais on vient de se rendre compte que le décret d'interdiction n'a peut-être jamais existé et les versets sataniques pourraient bientôt arriver en librairie, correspondance de Combastin.
Cela relève plus du hasard que d'une décision mûrie. En 2017, un bibliophile du Bengale occidental s'est tourné vers la justice au nom de sa liberté de lire. L'affaire est montée jusqu'à la haute cour de Delhi, qui a finalement été incapable de mettre la main sur un document attestant de l'interdiction des versets sataniques. S'est-il perdu ou n'a-t-il jamais existé ? Toujours est-il qu'en l'absence dudit décret, le livre de Salman Rushdie peut être importé comme n'importe quel autre ouvrage en Inde, a conclu la cour en réponse aux plaignants musulmans. Né à Bombay, Salman Rushdie est aujourd'hui britannique, mais reste célèbre dans son pays d'origine. À la sortie de ce roman, alors que le monde musulman s'enflammait contre un livre interprété comme blasphématoire envers le prophète, le premier ministre indien, Rajiv Gandhi, avait préféré jouer l'apaisement et l'interdire. Le gouvernement actuel n'a pas encore réagi, mais il est peu probable qu'il cherche à briser le jugement de la cour. Reste à voir si les librairies indiennes vont garnir leurs étalages avec cet ouvrage sulfureux, 36 ans après sa publication. Combastin, Bangalore, RFI.
Un attentat au Pakistan revendiqué par les séparatistes du Baloutchistan, explosion d'une bombe sur un quai de gare, bilan 26 morts dont 14 soldats, il y a aussi 60 blessés. Les séparatistes affirment avoir ciblé une unité de l'armée pakistanaise. 14 morts cette nuit dans la bande de Gaza, 14 Palestiniens tués par une frappe de l'armée israélienne, deux frappes même sur une école et sur un camp de tente qui abritait des civils déplacés, bilan fourni par la défense civile palestinienne, alors que le gouvernement du Hamas annonce, lui, qu'en 24 heures, ce sont 44 personnes qui ont été tuées par l'armée israélienne. Et puis un rapport des Nations Unies sonne l'alerte sur la situation dans le nord de la bande de Gaza, où l'armée israélienne a intensifié ses opérations. C'est déjà la famine, dit l'ONU, où ça va l'être dans un avenir proche. L'Iran réagit ce matin aux guerres d'Israël à Gaza et au Liban. L'insécurité et l'instabilité peuvent se propager à d'autres régions, même très lointaines, selon le chef de la diplomatie iranienne. Téhéran, par ailleurs, dément toute implication dans un projet d'assassinat de Donald Trump, projet qui aurait été déjoué par les États-Unis. Dans le viseur de la police fédérale américaine, Pierre-Olivier, il y a un Afghan de 51 ans.
Et oui, Farhad Shakeri serait, selon
selon Washington, un agent du régime des Mollahs. Désormais en Iran, il aurait tenté de mettre sur pied un réseau de criminels avec pour but notamment d'assassiner le président élu Donald Trump. Pour le ministre de la Justice des États-Unis, peu d'acteurs dans le monde représentent une aussi grave menace pour la sécurité nationale. Le FBI assure que Farhad Shakeri aurait reçu l'instruction des gardiens de la Révolution de faire surveiller et à terme d'assassiner le milliardaire républicain en représailles à la mort du général Qassem Soleimani, tué en 2020 sur le sol iranien dans une frappe de drone ordonnée par Donald Trump. Téhéran qualifie ce samedi de totalement infondé ces allégations. Toujours dans cette affaire d'assassinat, une journaliste irano-américaine aurait également été visée. Hier, vendredi, sur les réseaux sociaux, la dissidente Mahsi Alinejad assure avoir été informée il y a quelques mois par les services secrets américains d'une menace imminente la visant. Farhad Shakeri aurait promis 100 000 dollars à deux hommes pour mettre fin au jour de cet activiste. Deux résidents de la ville de New York ont été arrêtés ce jeudi pour avoir planifié son assassinat, Florent.
Pierre-Olivier du service international de RFI. Une nouvelle forme de la guerre à bas bruit que mène la Corée du Nord face à son rival du Sud. Le trafic en mer et dans l'air a été perturbé par des opérations de brouillage, des signaux GPS qui permettent aux avions et aux bateaux de se repérer. Correspondance à Séoul de Célio Fioretti.
Des perturbations qui n'ont heureusement pas causé d'accident. Le commandement militaire sud-coréen a prévenu tous les navires et avions de la zone de ne pas se reposer uniquement sur leur GPS pour éviter les drames. Les infrastructures militaires, elles, n'ont pas été touchées par ce brouillage. Ce n'est pas la première fois que le régime nord-coréen effectue des opérations similaires. En juin dernier, les signaux GPS au nord-ouest de la Corée du Sud avaient également été brouillés pendant plusieurs jours. Difficile de savoir quelles sont les motivations du régime derrière ces opérations, mais elles réussissent tout de même à inquiéter les Sud-Coréens des capacités nord-coréennes à perturber leur quotidien et leur sécurité. L'Organisation de l'aviation civile internationale a elle aussi exprimé ses sérieuses inquiétudes quant aux opérations de brouillage nord-coréennes. Le chef d'état-major sud-coréen a précisé que Pyongyang serait tenu responsable de ces actes. C'est le Fioretti, Séoul, RFI.
Une attaque de drone de la Russie en Ukraine cette nuit sur la ville d'Odessa. Un mort et 13 blessés selon les autorités locales ukrainiennes. Alors qu'à Kiev, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, est arrivé ce matin pour renouveler le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine. L'Allemagne a 35 ans, ou presque aujourd'hui, l'Allemagne réunifiée. C'était il y a en tout cas 35 ans que la chute du mur de Berlin avait lieu sous le regard du monde entier. Il y a des festivités aujourd'hui dans la capitale allemande, malgré la crise politique actuelle et l'explosion de la coalition gouvernementale. RFI, il est à 13h08 à Paris. Des milliers d'emplois vont disparaître en France. C'est l'annonce faite ce matin par le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, qui dit s'attendre à de nouvelles fermetures d'usines.
Il est vrai qu'il y a un certain nombre de filières qui sont dans des situations préoccupantes. La filière automobile et en particulier les équipementiers, la métallurgie, ces filières qui sont soumises à une très forte concurrence internationale, une concurrence qui n'est pas toujours très équitable parce qu'elle est très subventionnée en Chine et aux États-Unis. Et face à cela, eh bien évidemment, il y a des dossiers d'entreprises en difficulté, des annonces de fermeture de sites. Il y en aura probablement dans les semaines et les mois qui viennent. Ça va se compter en milliers d'emplois. On ne peut pas les évaluer précisément. Pourquoi on ne peut pas les évaluer précisément? Parce que sur chaque dossier, on se bat. La priorité, c'est d'essayer de trouver des repreneurs privés et évidemment, dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de repreneurs, mais dans cette hypothèse seulement, d'accompagner au mieux les salariés et surtout et également d'accompagner la revitalisation du site.
Le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, ce matin sur la radio France Inter. Et rendez-vous dans quelques minutes avec notre invité. La France a décidé de maintenir le match de foot France-Israël jeudi prochain au Stade de France. Après les violences de cette semaine qui ont visé des supporters israéliens à Amsterdam, le dispositif policier a quand même été renforcé. Laurence Théo.
Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau reste clair sur le sujet. Le match qui va opposer la France à Israël aura bien lieu au Stade de France, Pas question de l'annuler ou de le délocaliser, même après les violences de jeudi soir à Amsterdam. Pas question de renoncer donc, même si les matchs de football impliquant Israël sont tendus depuis un an. Et pour que la rencontre se passe dans de bonnes conditions, il y aura un déploiement de forces de l'ordre exceptionnel autour du Stade de France et devant l'hôtel de l'équipe israélienne. À titre d'exemple, pour un match qui oppose le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille, entre 10 et 15 unités de forces mobiles sont demandées. Pour le match France-Israël, il y en aura 26. Près de 3000 policiers et gendarmes seront déployés jeudi prochain aux abords du stade, qui devrait être aux trois quarts vide. Moins de 20 000 billets ont été vendus.
RFI Midi, les 13h10 à Paris. À suivre dans ces 20 prochaines minutes, avant de retrouver Afrique Midi, la France face aux plans sociaux, aux faillites d'entreprises. Rendez-vous avec notre invité. Un anniversaire aujourd'hui, la chute du mur de Berlin il y a 35 ans, mais l'Allemagne, vous le verrez, reste encore divisée. L'avenir des transports aux États-Unis après l'élection de Donald Trump, le grand ami d'Elon Musk. Et puis nous irons au spectacle avec un genre inédit, l'autobiographie théâtrale. Mais d'abord les sports. Le journal des sports, bonjour Olivier Pron.
Bonjour Florent, bonjour à tous.
Du foot pour commencer avant la trêve internationale, on vient d'évoquer le prochain match France-Israël. Ce week-end en France, c'est le championnat de France de Ligue 1.
Au sein de laquelle cette Ligue 1, Marseille coule, Florent, ou à tout le moins voit son rêve de lutter pour le titre s'envoler une journée sur deux, hein, en gros, et c'est déjà beaucoup, beaucoup trop en tout cas. L'OM battu hier une troisième fois, et à domicile, et face à un promu Auxerre, 3-1 en ouverture de la 11e journée de ce championnat, ça marque le tiers donc de cette saison de Ligue 1. Marseille à 6 longueurs du PSG qui joue ce soir à Angers, le 15e, et qui pourrait, Marseille, voir Monaco le distancer, Monaco 3e et sur le pré à Strasbourg à 15h, temps universel. Les Phocéens donc naufragés, incapables de gagner chez eux depuis deux mois. Leur entraîneur Roberto De Zerbi, rebaptisé De Zerbide par nos confrères de l'équipe, ce matin, il met sa démission dans la balance. Une consoeur de DAZN, ça c'est nettement moins drôle. Le diffuseur TV de cette Ligue 1, une consoeur qui reçoit un projectile à la mi-temps, sans gravité, mais ça n'en est pas moins honteux. Et au final, une logique est phénoménale, bronca au Vélodrome, une bronca que comprend le milieu international Adrien Rabiot.
Quand on est l'Olympique de Marseille, qu'on joue à domicile, on ne peut pas faire une prestation comme ça, c'est tout à fait normal. Autant quand on fait les choses bien, ils sont derrière nous et ils nous poussent, autant là ils nous ont poussé tout le match et à la fin ils ne sont pas contents, c'est normal. Mais on se le dit entre nous, le coach le sait aussi, on mérite ces sifflets tout simplement. Après dans le contenu c'est pas assez, c'est trop peu d'erreurs, on a travaillé des choses, on ne les a pas mis en place, voilà c'est tout, c'est un match indigne de l'Olympique de Marseille.
Strasbourg, Monaco et Angers, PSG cet après-midi et ce soir on l'a dit, cet après-midi et ce soir hein, on l'a dit, et puis entre les deux, Lens 8e recevra Nantes le 14e.
On joue aussi au foot un peu partout en Europe, en Angleterre notamment Olivier.
11e journée aussi en Première Ligue, Florent. Liverpool, le leader, reçoit Aston Villa, 6e, c'est à 20h temps universel, juste avant 17h30, Manchester City, 2e à deux longueurs des Reds et qui reste sur deux défaites, hein, notamment en Ligue des Champions, 4-1 mardi au Sporting Portugal. City donc se déplace à Brighton, dangereux, 8e. En Italie, derby de Turin ce soir, 19h45, la Juve face au Torino. Et puis en Espagne, le Real, humilié à domicile par le Milan AC mardi, reçoit dans 45 minutes le 5e, Osasuna.
Du rugby enfin, Olivier, avec le début de la saison des tests match.
Oui, elle a débuté hier par la victoire des All Blacks néo-zélandais face à l'Irlande, 23-13, suite aujourd'hui, 15h10, TU, Angleterre-Australie, 20h10, au Stade de France, la France reçoit le Japon, Antoine Dupont, champion olympique à 7 et absent du dernier tournoi destination, et de retour dans son rôle de capitaine d'une équipe où de nouvelles têtes apparaissent, c'est bien, comme le troisième ligne, Alexandre Roumat, fils de l'ex-international Olivier, première titularisation d'un Toulousain polyvalent et en pleine progression, nous dit le sélectionneur Fabien Galtier.
Depuis qu'il est à Toulouse, il enchaîne les titularisations, il enchaîne les grosses performances, il joue en 8, il peut jouer en 7, il peut jouer en 4. C'est un joueur qui a de grandes qualités sur tout ce qui est phase de conquête, notamment tout ce qui est phase aérienne, mais pas que. C'est un joueur qui travaille énormément au sol, c'est un joueur qui sait tenir le ballon, qui sait porter le ballon, qui sait faire jouer, qui défend bien sur l'homme, qui travaille bien défensivement qu'offensivement. Donc c'est un joueur qui, de par ses performances avec Toulouse et avec nous, bien mérite de débuter face au Japon.
Et ben voilà, il débutera donc. Fabien Galthié, lui aussi débutera, mais sur le banc. Avant France-Japon au Stade de France, 20h10 TU.
Merci Olivier Prand, il est 13h14 à Paris. Et on ne chôme pas en ce moment en France dans les tribunaux de commerce où sont prononcées de plus en plus de liquidations judiciaires d'entreprises. Il y a eu notamment cette semaine l'annonce de la fermeture de deux usines du fabricant de pneus Michelin, des défaillances d'entreprises en hausse de 23% cette année et des milliers d'emplois qui vont encore disparaître. On a entendu le ministre de l'Industrie dans le journal. On en parle tout de suite avec notre invité Christian Saint-Étienne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste et professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, le CNAM, à Paris. Et vous avez écrit un livre qui évoque l'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial. Comment expliquez-vous cette hécatombe automnale ?
Je pense qu'il y a plusieurs explications. D'abord, la fin du quoi qu'il en coûte, qui a duré vraisemblablement trop longtemps compte tenu de la situation des finances publiques.
Mise en place pendant le Covid, on le rappelle.
Voilà, mais qui a protégé le système productif en 20, 21, 22. En 22, on a eu les politiques extrêmement fortes menées par le gouvernement en lien avec la crise énergétique. Donc tout ça s'arrête au milieu de cette année. Et compte tenu de la situation des finances publiques, le gouvernement a pris un certain nombre de décisions, notamment sur l'apprentissage, sur le début de la réduction des aides pour les emplois proches payés au SMIC ou proches du SMIC. Donc tout cela fait que, au fond, on a un retard de restructuration de l'économie qui conduit à ce que, avec l'arrêt des aides, tout se passe au même moment. Ça, c'est le premier élément clé. Le deuxième, c'est que l'économie européenne va très mal. L'économie clé en Europe, c'est l'Allemagne, et l'Allemagne va très mal.
Encore plus mal que la France.
Encore plus mal que la France, et donc ça freine le rebond de l'économie française qui avait un peu commencé avec les Jeux Olympiques, mais qui s'affadit en ce moment. Et puis on a enfin un phénomène qui malheureusement va durer plusieurs années, qui est que comme les Américains vont mettre des droits de douane très forts sur la Chine, on va avoir un déversement de produits chinois sur l'Europe qui va accentuer les contraintes de compétitivité. Donc
le protectionnisme de Donald Trump ne va d'ailleurs pas épargner l'Europe et donc la France. Ça va aggraver la situation,
oui,
selon vous ?
Oui, je pense que ça va rendre des choses difficiles sur les deux prochaines années, sauf à ce que l'Europe fasse comme les États-Unis. Mais c'est peu probable puisque l'Allemagne, de facto, c'est très désagréable pour nous en tant que Français, mais de facto, dans les 10 dernières années, l'Allemagne a pris le leadership en Europe et l'Allemagne mène une politique extrêmement mercantiliste. Elle ne veut pas une protection par les droits de douane, même inférieure à celle des États-Unis, mais qui néanmoins prendrait en compte les politiques chinoises d'aide massive à leurs entreprises. Donc on va avoir une situation qui va être difficile pour l'ensemble de l'année 2025.
Au-delà des problèmes de trésorerie en particulier que vous avez évoqués, ces usines qui ferment en France, c'est parce qu'elles fabriquent aujourd'hui des produits un peu obsolètes, dépassés, ou bien c'est parce qu'elles vont continuer à les produire, mais ailleurs ?
Je pense qu'il y a les deux. Il y a le fait que on a quand même un problème en France, c'est le coût du travail. Même si les gens s'estiment très mal payés, le coût du travail en France est le plus élevé en Europe. Pour la seule industrie, on est au niveau de l'Allemagne, mais on a un coût du travail qui est 20% supérieur à celui de l'Italie et 30% supérieur à celui de l'Espagne. Donc on a un coût du travail et des impôts de production qui ont été un peu réduits mais qui restent très élevés. Donc ça, c'est un élément structurel, mais également je pense qu'il y a eu un sous-investissement de la part des entreprises, à la fois en technologie et en innovation de produits. Donc on a un retard notamment de robotisation des usines. Alors la robotisation, ça semble faire peur à tout le monde, mais en fait
ça veut dire de la main d'œuvre en moins.
Ouais, dans un premier temps, mais les entreprises robotisées, sur la durée, créent plus d'emplois que les autres puisqu'elles restent compétitives. C'est-à-dire c'est un peu moins d'emplois sur les lignes de production, mais beaucoup plus d'emplois autour des lignes de production en innovation et en logistique. Donc, l'économie française doit faire un effort colossal de restructuration et d'innovation si on veut éviter de continuer. On a subi une désindustrialisation massive. Elle s'est calmée, là, mais elle pourrait reprendre. Donc, il faut vraiment un plan stratégique de développement si on veut pas un bain de sang sur l'emploi.
Merci beaucoup Christian Saint-Etienne pour toutes ces explications. Économiste, professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris, où il est 13h20. C'est un événement qui a changé la face du monde il y a 35 ans, jour pour jour. La chute du mur de Berlin, le symbole d'une Europe divisée entre le bloc occidental et le bloc communiste. Un événement qui a aussi changé la face de l'Allemagne, jusqu'alors divisée entre la RFA à l'ouest et la RDA à l'est. Mais 35 ans après, des divisions persistent entre les deux anciennes Allemagnes. Notre correspondant à Berlin, Pascal Thibault, en a parlé avec trois Allemands de l'ex-RDA.
Résumé allemand, le titre des mémoires de Vincent von Wroblewski reflète la complexe identité de l'octogénaire né en 1939 en France où ses parents, des communistes allemands anti-nazis, avaient trouvé refuge. En 1950, sa mère veuve rentre dans son pays et choisit par conviction l'Allemagne de l'Est qui vient d'être créée. Son fils y fait plus tard carrière comme philosophe et traducteur. Il est durant 20 ans membre du parti communiste.
J'ai été très content que la RDA, avec ses restrictions de toutes les libertés, soit éliminée. Mais je regrette la façon dont ça s'est fait et je regrette les occasions manquées dans une union. Ce qui serait raisonnable, c'est que chacun apporte ce qu'il a de bon. Et pas que un impose tout ce qu'il a à l'autre, auquel il ne reste plus rien de ce qu'il avait.
35 ans plus tard, beaucoup d'Allemands de l'Est se considèrent toujours comme des citoyens de seconde zone. Ils soulignent la large domination des élites de l'Ouest, aujourd'hui encore dans tous les domaines, les salaires et les patrimoines toujours inférieurs. La brutale transformation avec un chômage massif dans les années 90 a laissé des traces. Pourtant, la situation est aujourd'hui bien meilleure et les frustrations ne sont pas confirmées par les statistiques positives. Des frustrations et une identité Est qui se transmettent de génération en génération, même chez les plus jeunes. Thérésia Krone, 22 ans, ne partage pas ce sentiment. Sa mère, hostile au régime est-allemand, lui a transmis d'autres valeurs. Mais arrivée à l'Ouest, la jeune femme a été choquée de l'image de l'Est.
Pour la première fois, c'était vraiment un sujet. J'ai dit à quelqu'un, « Ah, je suis grandi à Schwerin » et la personne a dit, « Ah, vraiment, tu viens de l'Est, ta famille est de l'extrême droite. » Il y a 10 ans, c'était pas un sujet.
La jeune femme s'est d'abord engagée au sein du mouvement pour l'environnement Fridays for Future. Aujourd'hui, elle dénonce sur TikTok le danger de l'extrême droite et est victime d'attaques permanentes. Un danger que dénonce Marco Martin, l'écrivain quinquagénaire issu d'une famille d'opposants à la RDA, a quitté son pays d'origine quelques mois avant la chute du mur. Pour lui, les mentalités autoritaires d'autrefois expliquent les résultats électoraux d'aujourd'hui.
Presque une majorité vote soit une partie extrême droite ou pour une partie autoritaire crypto-stalinienne. Et les deux parties ont beaucoup de choses en commun. Par exemple, l'orientation anti-européenne, le chauvinisme national, une affirmation pour le régime en Kremlin.
Invité par le président de la République Steinmeier avant-hier, Marco Martin a prononcé un discours critique et dérangeant. Il se demandait si le symbole de liberté que représentait la chute du mur de Berlin et la période qu'elle a ouverte en Allemagne et ailleurs n'était pas qu'une parenthèse en train de se refermer. Pascal Thibault, Berlin RFI.
24, 32, 58 au 24.
La chronique transport international à présent, après l'élection de Donald Trump, président élu avec le soutien du milliardaire Elon Musk, l'un des rois du transport automobile et spatial. Alors, justement, quel sort attend le gigantesque plan d'investissement de Joe Biden pour les infrastructures, notamment la rénovation des routes, des ponts ou des voies ferrées? Marina Mielzarek.
Thank you, Grandfather Introduction.
Votre nouvelle bicyclette, vos nouvelles baskets avec des routes et des ports rénovés, eh bien vous les recevrez à la maison beaucoup plus vite. Ainsi parlait Joe Biden il y a 3 ans, en annonçant que les démocrates et les adversaires républicains s'étaient accordés sur sa réforme ambitieuse et coûteuse à hauteur de 1 200 milliards de dollars. Et à l'époque, un certain Donald Trump avait pris la parole pour critiquer la loi. Alors aujourd'hui, avec Donald Trump justement et son acolyte Elon Musk, quel avenir pour cette modernisation des transports ? Plutôt une mauvaise passe, si l'on en croit Mathieu Chorug. Il est directeur en géographie et c'est l'un des plus grands spécialistes du transport américain.
Il est très probable que l'élection de Donald Trump puisse menacer les différents plans aux infrastructures, des coupes budgétaires très importantes, qu'on appelle dans le jargon néolibéral et républicain, downsizing. Alors, concernant les États-Unis, les principales priorités devraient porter déjà sur la rénovation, puisque aux États-Unis, la plupart des grandes infrastructures de transport sont dans une situation compliquée. Les grands réseaux autoroutiers et routiers, pour certaines infrastructures, dans une situation alarmante. Certains tunnels avec une maintenance qui n'a pas été au rendez-vous, notamment par manque de moyens financiers. On a quelques grands chantiers qui ont été lancés, notamment à Chicago ou à JFK à New York ou encore à Los Angeles. À la fois le redéveloppement ou le développement des transports en commun, notamment le métro par exemple, ou les trains régionaux, mais également la modernisation et le développement des réseaux de bus qui sont en grande souffrance dans beaucoup de villes américaines. On sait que Donald Trump, Elon Musk également, ont dans leur viseur tout un ensemble de réglementations qui aujourd'hui rend plus compliqué et plus coûteux le développement de certains types de projets, le développement de certains sites industriels également. Donc pour eux, la priorité serait de lever ces barrières environnementales, ces contraintes, pour encourager le développement économique en quelque sorte à tout prix.
Donald Trump l'a encore répété sur scène lors de sa première apparition après avoir été élu, veut réparer l'Amérique. Côté transport, eh bien, il aura de quoi faire. Aux États-Unis, aujourd'hui, certains ponts menacent de s'écrouler, des routes et des autoroutes jamais ou mal entretenues font courir des risques aux chauffeurs routiers comme aux citoyens à bord de leur voiture. Et puis, une dernière remarque, les États-Unis n'ont toujours pas de train à grande vitesse.
Marina Mielzarek pour la chronique Transport International. Une autobiographie au théâtre, c'est ce que nous propose un spectacle intitulé Cécile, écrit et interprété par Cécile Laporte, qui raconte sa propre vie, ses engagements politiques et sociaux. Une pièce en tournée en France en ce moment, reportage de Muriel Mahalouf.
Eh ben bonsoir. Bonsoir. Ah, vous êtes bien installés, tout ça. Ben, go.
Voilà que nous embarquons dans la vie de Cécile, de sa naissance à ses différents engagements. Clown à l'hôpital, animatrice pour personnes en situation de handicap, militante dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes contre le projet d'aéroport près de Nantes, Cécile nous invite ainsi dans sa vie intime et ses convictions. Marion Duval, metteuse en scène.
Pourquoi Cécile ? D'abord parce que j'ai repéré qu'elle faisait du bien aux gens qui étaient autour d'elle. Et puis du coup, c'est très agréable d'être autour d'elle parce que les gens autour sont plus agréables, plus aimables, plus sympathiques. Et je me suis dit, pourquoi ne pas rendre la France plus sympathique ? En tout cas, faire une tentative. Et puis sinon aussi, parce qu'elle a fait la place dans sa vie à des choses auxquelles moi, j'ai pas fait la place. Et puis du coup, pour moi, lui faire la place à elle, c'est aussi une manière de faire la place à tout ce à quoi j'ai pas réussi à prendre part.
Bon, on se sent bien. Ça tombe bien. Là, en fait, je dois parler plutôt de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Donc ça, c'est une grosse victoire. Et ça a demandé énormément de lutte pour en arriver là. Et une victoire comme ça, c'est quelque part à ne pas oublier, parce que les luttes, elles deviennent de plus en plus compliquées.
Cécile Laporte tient son public en haleine 3 heures durant. Une performance et un tour de force. Entre rires, applaudissements et autres réactions, le public n'est jamais indifférent. L'audace de ce spectacle, justement, est de se déployer bride au cou et de faire confiance au hasard des soirs et des rencontres entre scène et salle.
Du coup, ça peut prendre pas mal de couleurs différentes. Les points les plus extrêmes, un peu, je pense que c'est... On a eu une classe de lycéens qui était là. Pour certains, c'était peut-être la première fois qu'ils voyaient le spectacle. Et puis, c'était très beau. Et à un moment donné, elle a invité tout le monde à aller danser sur le plateau à un moment. Et puis sinon, il y a eu un autre événement qui était plus tendu. C'était quand à la première, elle a fait un hommage à la Palestine. Et puis, il y a eu des invectives depuis le public en parlant du Hamas et des otages. Puis après, du coup, j'entends des histoires comme quoi, en fait, des personnes qui étaient là et qui ont dit ça ont vécu un moment extrêmement violent. Ça donne matière à réflexion. Comment ça se fait que des gens parlent de la violence qu'ils subissent dans une salle de théâtre qui est quand même relative et trouvent que ça vaut la peine de parler de ça alors qu'on est en train de faire un hommage à des gens qui se battent pour exister.
Marion Duval ou Cécile n'ont en tout cas pas la langue dans leur poche, qu'il s'agisse de politique, d'engagement humanitaire ou de militantisme social, ça bouscule et ça met en joie.
Un reportage de Muriel Malouf pour cette pièce de théâtre intitulée Cécile. On arrive à la fin de cette première demi-heure d'information, mais restez avec nous. RFI Midi continue dans 30 secondes. Ce sera Afrique Midi.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Inspirante, décomplexée, riche et aujourd'hui courtisée, cette nouvelle cuisine mêlée des racines assumées et revendiquées de l'Afrique en France. Ses chefs au fourneau sont afrodescendants, afropéens, africains installés depuis quelques années ou bien en escale. Et cette cuisine, on la goûte ce dimanche à 11h30 en temps universel.
Le goût du monde. Clémence de Navy sur RFI.